Vous êtes sur Canal B 94 FM. Si vous vous demandez ce que c'est que cette drôle de musique avec ces drôles de sonorités, c'est normal, vous êtes sur musique.fm, l'émission consacrée aux musiques de jeux vidéo et pas que, aussi à tout ce qui va avec, y compris les artistes même actuels qui s'en inspirent. Voilà, toute la culture de cette musique que nous chérissons tant avec Benjamin, donc mon camarade habituel d'émission. Bah, salut Benjamin.
Salut, salut tout le monde.
Voilà, donc moi c'est Alexis. Si vous suivez, de toute façon, vous savez déjà toutes les informations. Et pour la deuxième fois de la courte histoire de cette émission, nous avons donc une personne avec nous. Nous avons une invitée aujourd'hui qui s'appelle Nat, aka DJ LMS. On espère pour votre bien que vous avez déjà croisé une fête où Nat faisait un set, car on a eu l'énorme plaisir avec Benjamin notamment d'assister à un set de Nat à Warm Up du Stonefest, le Stonefest qui a eu lieu cette année à la fin de l'année, et il y a eu un Warm Up en octobre au Grand 8. Donc Benjamin avait joué en concert, et non, Nat avait fini la soirée avec un set extraordinaire. Oui, oui, j'assume.
C'est pas moi qui
ce dis. Terme. J'assume ce terme qui met mal à l'aise nos invités. Écoute, Nat, on va te laisser te présenter évidemment, mais en tout cas, juste pour dire, moi j'ai encore un souvenir incroyable de ce set où, en plus, on t'avait commandé en quelque sorte un set où tu fais un peu ce que tu fais habituellement, mais mélangé avec des musiques de jeux vidéo.
Ouais.
Et de toute façon, on va sûrement en reparler, mais je te laisse un peu te présenter à nos auditeuristes qui te connaissent peut-être
pas. Ça marche. Et merci déjà pour l'invitation, ça fait plaisir d'être ici. Nat, DJ LMS, donc une DJ productrice de musique. Et du coup, aussi fan de jeux vidéo, sinon je ne serais pas là. Et du coup, c'est vrai que on s'était plus amplement rencontré à l'occasion de cette date au Stonefest. Moi, c'était un truc, je pense que ça m'avait vraiment fait plaisir qu'on pense à moi pour ça, parce que je pense que la musique de jeux vidéo, c'est toujours un truc qui m'a inspiré, et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un set autour de la musique de jeux vidéo. Et en fait, je pense très rapidement quand tu m'as contacté, Alexis, je me suis dit, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi de montrer un peu les allers-retours qu'il y a entre en fait la musique de jeux vidéo et les autres musiques que moi je joue, les musiques des scènes club, les musiques des scènes bass music, etc., que je joue habituellement. Donc en fait, faire des ponts entre toutes ces scènes-là, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois la musique de jeux vidéo et aussi ce que la musique de jeux vidéo a influencé dans la scène musicale ailleurs, quoi.
Et ouais, ça c'est officiel. Enfin, on retrouve évidemment, quand on connaît un peu la musique de jeu, les jeux vidéo, quand on y a joué dans les années 90-2000, on ressent parfois des similitudes, enfin on reconnaît des similitudes, mais toi qui connais peut-être beaucoup plus que moi, en tout cas les scènes club actuelles et tout, il y a une vraie influence de la musique de jeu là-dedans.
Ouais, je pense que ça fait faire même une petite vingtaine d'années qu'il y a des genres musicaux qui sont vraiment influencés assez fortement par la musique de jeux vidéo. Je pense que d'abord ça s'est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que le premier truc est arrivé, ça a été d'avoir par exemple de la jungle ou des musiques comme ça qui apparaissent dans des jeux vidéo de la fin des années 90, début 2000, et
avec
tout
genre Wipeout et tout ça, voilà, où ils invitaient des pointures de l'électro pour faire des BO de jeux.
C'est bien ça. Donc ça s'est aussi fait dans l'autre sens, notamment en samplant beaucoup de musique qui venait de jeux vidéo et tout ça. Donc dans les genres musicaux, par exemple dans les labels que j'ai, donc je me suis beaucoup servi pour construire ce set justement au Stonefest, il y a tout le label Hyperdub, qui est un label anglais qui est tenu par un musicien qui s'appelle Code9. Et en fait, dès les premières sorties de ce label-là, c'est un peu un label pionnier de, on va dire, la scène dubstep un peu avant-garde, donc du milieu des années 2000, ça naît, je crois, en 2005 ou 2006. Et en fait, il y a énormément de sorties où direct, ça va signer des artistes qui vont utiliser beaucoup de sonorités en 8 bits. Par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Quarta 330 qui a eu des sorties dessus, qui est un artiste japonais de la scène chiptune. Et en fait, il y a des brassages comme ça, pareil, dans les musiques anglaises. Il y a aussi, par exemple, un genre que j'affectionne particulièrement, la grime. Donc il y a une espèce de mélange entre de la bass music anglaise et des MC qui rappent par-dessus. Et là, très rapidement, on retrouve aussi des gens qui sont mis à faire des instrus sur des softs, sur PS1 et tout ça, des choses comme ça.
Yes.
Et donc en fait, avec des sonorités bien kitsch qu'on retrouve dans certains jeux vidéo un peu à l'ancienne, quoi.
Mm-hmm.
Et puis, des samples de Street Fighter, des samples, tout ça. Donc, je pense qu'en fait, vu qu'on vit dans un monde où les gens jouent aux jeux vidéo, forcément, à un moment donné, ça vient influencer la musique qu'on fait, quoi. C'est ça un peu.
Oui, c'est ça. Il y a plein de musiciens et musiciennes aujourd'hui qui étaient kids à l'époque et qui ont découvert la musique aussi avec la PS1, la Dreamcast et tout. Moi, on est de la même génération avec Benjamin, mais moi, j'ai. Mes premières musiques, c'était sur console, quoi. Enfin, c'est ces musiques-là que j'ai eu en tête en premier avant d'avoir des tubes de M6 et tout ça, quoi.
Ouais, bah, bien sûr.
Ouais, donc c'est cool. Et y a aussi un truc, c'est que c'est pas que pour ça qu'on t'a invité, mais il y a aussi une petite news qu'on peut teaser un peu vis-à-vis du label musique.exe, car pour ceux qui prennent l'émission en cours ou qui n'ont jamais écouté l'émission d'avant, notre émission, c'est aussi lié au label musique.exe. Qu'on tient avec Benjamin donc à Rennes et donc c'est un label dédié aussi aux musiques inspirées ou complètement calquées sur la musique de jeux vidéo et donc Nat c'est cool parce qu'on va probablement te sortir un truc cette année.
Ouais, carrément.
Voilà, on a hyper hâte aussi. En plus, on a pensé à un petit format trop sympa, mais ça on en reparlera plus tard. Mais voilà, c'est histoire de teaser un peu aussi sur cette petite news. Donc c'est d'autant plus cool que tu sois là avec nous.
Yep.
Et voilà, je sais pas si Benjamin t'avais des questions à poser.
Du coup c'est cool de parler aussi de ton activité de production de musique, quoi. Enfin,
oui, c'est vrai qu'on peut.
Au-delà des DJ sets, même si c'est déjà trop cool. Mais du coup t'as un rapport. Enfin, je sais pas les sons de jeux vidéo. Enfin, dans tes productions, est-ce que tu utilises des samples assez précis? Enfin, est-ce que t'as.
Bah, je vais faire un peu la même réponse que Alix, qui était dans votre précédente invitée, qui fait un peu la même chose. C'est que moi je travaille beaucoup avec des samples, avec des banques de sons.
Ouais.
Et du coup, dans les banques de sons que j'ai des banques de sons qui sont des banques de sons de SFX de jeux vidéo, des musiques de jeux vidéo que je sample, que je vais twister, des choses comme ça. Je pense que y a un peu un truc où des fois je le fais consciemment en me disant ah là j'ai envie que ça cite quelque chose ou que ça fasse appel à cet univers là. Des fois je le fais plus inconsciemment sans même me rendre compte qu'au final la musique que je suis en train de faire sonne un peu jeu vidéo entre guillemets, quoi. Et sinon, y a aussi le fait que moi je travaille sur un logiciel qui est pas forcément très commun mais qui fait un peu appel aussi à l'histoire de la musique de jeu vidéo. Je travaille la musique sur des trackers.
Ouais, cool.
Donc c'est un peu
tu peux juste expliquer ouais. T'as des gens
c'est
qui...
ça ouais forcément pour expliquer un peu en gros c'est un peu la préhistoire des logiciels de musique par informatique on va dire donc c'est les premiers logiciels de MAO donc ce qu'on appelle musique assistée par ordinateur et qui ressemblent un peu à des vieux séquenceurs plutôt physiques quoi vu comme à des vieilles machines un peu quoi
visuellement ça ressemble plus à des tableurs, je pense.
Ouais, presque. On dirait un Excel, ouais. On dirait qu'on est en train de coder quelque chose.
En fait, c'est hexadécimal. Enfin, si vraiment il y en a qui ont des toutes petites notions de MAO ou qui voient à peu près ce que c'est qu'un logiciel de musique aujourd'hui, aujourd'hui tout est plutôt horizontal. On voit en général des courbes audio qui se succèdent ou des petits clips. Les trackers, c'est vertical, c'est des espèces de codes, enfin d'ensemble de chiffres et de lettres qui défilent verticalement et c'est ça qu'on a l'impression de hacker un terminal dans Metal Gear Solid quoi mais
un peu c'est pour ça que j'ai essayé au début c'est parce que ça me faisait trop rire l'interface visuelle quoi.
Bien sûr.
Et en fait je suis devenu complètement addict au truc.
T'as voulu vraiment rester là-dessus même j'imagine t'as essayé d'autres logiciels et
moi à la base je viens d'Ableton et tout ça donc de logiciels beaucoup plus récents et tout mais en fait je trouvais ça trop marrant quoi. Surtout que le tracker que j'utilise c'est un tracker qui s'appelle Renoise. C'est un logiciel qui est pour le coup assez récent et qui même si ça reprend l'interface des logiciels plus à l'ancienne des trackers à l'ancienne on est sur quelque chose qui permet de faire autant de choses que les logiciels d'aujourd'hui quoi. Il y a beaucoup plus de possibilités dedans donc du coup au final je suis resté dessus parce que aussi je vais plus vite quoi. Je sais pas pourquoi
si tu connais vachement bien ton outil
en plus si t'aimes bien la musique de jeu t'as une connexion un peu
carrément
j'ai chopé le M8 Dirty Wave À chaque fois, je m'y mets, je commence à faire des trucs et puis je passe à autre chose. Et après, il faut que je réapprenne tout parce que j'oublie. Ouais. C'est un tracker de poche, en gros. Mais bon, ouais, je comprends. C'est trop marrant de faire de la musique comme ça.
J'aime bien faire l'intro de cette émission sur le truc ultra nerd direct.
Ouais. Tu sais qu'à Canal B, on utilise Soundforge pour enregistrer. Si tu pourrais faire de la musique avec Soundforge ou pas ?
Écoute, je pense qu'on peut faire de la musique avec tout en soi.
C'est vrai.
Faut essayer.
Des fois, les limitations, ça te permet de développer tes idées, ton imaginaire. Et tout.
Ok. Bah, voilà, un projet Soundforge bientôt. en parlant de musique, je pense qu'on va faire comme avec Alix la dernière fois et comme on fait nous habituellement, on va proposer à tous ceux et celles qui nous écoutent un petit mix et donc c'est toi Nat qui va commencer avec une proposition de combien de morceaux, tu te rappelles ?
Alors, je crois qu'il y en a 5, il me semble.
Ok, donc ouais. On va écouter 5 morceaux et tu nous en parleras donc après. Allez, let's go. Thank you. Vous écoutez Canal B, 94 FM, l'émission musique.fm. Et si vous avez eu la chance de pouvoir écouter les 5 morceaux qui nous ont précédés là, c'était génial. C'était la sélection de Nat, donc DJ LMS, qui était avec nous. Et bah écoute, bah je t'en prie, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ces choix musicaux.
Ouais, carrément. C'est pas des choix forcément très originaux, mais bon, c'est des musiques. Je pense que j'ai essayé de choisir soit des choses qui sont associées à des souvenirs de jeux vraiment qui m'ont marqué, et aussi surtout des musiques plutôt qui ont influencé un peu mon travail, ou en tout cas qui sont dans la veine de ce que moi j'aime bien proposer en termes de musique et tout ça. Donc ouais, ça a commencé par un morceau qui est... je me suis dit, c'est bien de commencer par un écran-titre.
Bien joué.
Le premier morceau, c'était vraiment... ça vient de la BO de Chrono Trigger,
okay.
Donc, qui est fait par Yasunori Mitsuda.
Et c'est l'écran-titre du jeu.
Ouais, c'est l'écran-titre du jeu.
On a hésité à faire une émission un jour...
sur les écrans-titres.
Spécial Main Menu, tu vois.
Ah ouais, moi j'adore.
Tellement de tracks qui s'appellent Main Menu dans les jeux vidéo.
Moi je trouve que c'est vraiment... en tout cas, dans les souvenirs de jeux vidéo, c'est un truc très marquant, les écrans-titres, je trouve.
Bah puis des fois, tu t'éloignes de la console ou tu fais autre chose, et t'as un truc qui tourne, et des fois ça peut durer 2 heures. Parce que
ouais,
tu...
c'est ça. Et moi j'adore, franchement, en gros j'ai hésité entre 3 des grands titres, soit celui-là, soit celui d'Ocarina of Time, soit celui de Kingdom Hearts 2, qui sont un peu les 3 qui m'ont vraiment
C'est ton
marqué,
top 3 de Main Menu.
Voilà, top 3 Main Menu, et donc j'ai fini sur Chrono Trigger, qui est, je pense, un de mes jeux préférés, jeu de la fin de la Super NES, un JRPG qui est vraiment incroyable, quoi. C'est...
Oui, il paraît,
ouais,
le ferai un jour.
Et puis une BO de ouf, quoi. Enfin, il y a tellement de tracks
à fond.
Magnifiques.
Ouais, vraiment, je pense on peut tout écouter. Enfin, il y a vraiment peu de BO, moi, où il y a autant de tracks que je garde dans le total, quoi. Ensuite, ça a enchaîné par un morceau du jeu Ape Escape, donc le premier du nom, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, qui s'appelle Time Station. Et du coup, c'est les musiques de Soichi Terada. Donc, qui est quelqu'un de très important dans la musique de jeux vidéo à mes yeux, et pour la musique tout court, en fait.
Carrément.
Ouais.
Compositeur japonais qui était surtout connu dans les scènes Deep House et Jungle, et qui est un peu celui qui fait partie de ceux qui ont un peu, je pense, mis au goût du jour ce truc de la jungle dans les jeux vidéo.
Mm-hmm.
Et maintenant, je pense qu'il n'y a pas un mix sur YouTube. De vidéo game musique avec des trucs un peu jungle, drum and bass et de ça, où il n'y a pas un morceau de Seiichi Terada, quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est vraiment devenu un peu un incontournable.
C'est marrant, moi je fais des mix de musique de jeu dans des bars à Rennes, en DJ set et tout. Et bon, je mets souvent du Seiichi Terada. Et pour la radio, je me suis dit, bon, j'attends le bon moment.
Ouais.
Pas encore.
Trop tard.
Bah, c'était ça le bon moment.
Je suis allé voir au début s'il n'y avait pas eu de Seiichi Terada avant dans l'émission. Je me suis dit, ok, quand même, il y en a eu 3 ou 4 fois. Je vais pas en mettre. Mais bon, j'ai vu qu'il n'y en avait pas trop.
Non, mais t'as bien fait. C'était la meilleure occasion.
Voilà. Ensuite, ça a enchaîné avec un morceau de Jet Set Radio Future. Donc, Jet Set Radio Future qui était sorti sur Xbox, il me semble. Xbox premier du nom, je crois.
C'était sur la première Xbox,
ouais, c'est ça. Et moi, ça fait partie des jeux que j'ai rattrapé plus tard sur émulateur, donc je n'avais pas les Xbox premier du nom. Et du coup, avec donc une bande-son qui était faite par plusieurs compositeurs, compositrices pour le coup, même avec des tracks qui avaient été mis pour l'occasion, qui étaient antérieurs au jeu et tout ça, des fois. Mais là, du coup, c'est un track de Hideki Nakanuma qui a fait une bonne partie de la bande-son, qui est un peu celui qui est le plus connu, je crois, de la bande-son de Jet Set.
Okay.
Donc, vraiment avec des sonorités très, très... on va dire un espèce de truc un peu break funk, un peu futuriste, un peu électro et tout ça. Et ça a marqué beaucoup de gens, je pense, à une certaine époque. Et c'est pareil, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Enfin, moi, dans les scènes que je suis musicalement, le nombre de fan art Jet Set Radio, de gens qui ont un avatar inspiré de ces designs-là, ou qui vont reprendre des sound effects de Jet Set Radio et tout ça. Enfin,
bah t'avais une grosse DA, quoi, dans Jet Set Radio en règle générale, et avec la musique qui va avec.
Ouais.
C'était assez radical.
De toute façon, l'esthétique de tous ces jeux qui utilisaient ce genre de musique, c'est vachement présent aujourd'hui, je trouve, dans l'esthétique internet, des visuels d'artistes et tout.
Ouais, bah c'est le truc, le cycle des 20 ans, tous les 20 ans, il y a des trucs qui reviennent. Donc ces jeux-là, ils ont un peu 20 ans quasiment.
Ouais.
Et donc du coup, forcément...
C'est du rétro gaming hein, maintenant.
Voilà, c'est ça. Mais et puis Jet Set Radio, bah, du coup, pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu assez fou, où en gros, l'idée, c'est que tu joues des personnages qui font partie d'un... d'un gang, d'une bande, en tout cas, dans un espèce de Tokyo futuriste. Et le principe, c'est d'aller taguer les murs en roller et de d'échapper à la police et de taguer les flics quand ils viennent t'empêcher de taguer. Voilà, avec tes bombes de peinture. Donc, en plus, jeu assez... voilà, assez... assez gauchiste, on adore.
On parle de musique, hein, on vous dit pas quoi faire
évidemment
dans la rue, mais
après vous faites ce que vous voulez.
Faites ce que vous voulez.
Voilà.
Après.
Mais voilà.
Sinon vous pouvez jouer à Tony Hawk, hein, c'est plus tranquille.
Ouais, c'est vrai.
Choisissez.
Et donc voilà. Ensuite le morceau suivant, c'était un morceau d'un jeu assez récent pour le coup, qui est Sonic Frontiers, que je n'ai absolument pas fait.
Pareil.
Mais où dans la BO il y avait ce track là qui m'a tapé dans l'oreille un peu, donc qui est un morceau de Rintaro Soma. Cyberspace 3.5 BMB, donc j'imagine que c'est par rapport au nom du niveau. Mais ce qui m'a pas mal marqué en fait, c'est que je pense que c'était la première fois que j'entendais un track de footwork dans un jeu vidéo, et c'est un genre que j'affectionne particulièrement, et en fait que qui je trouve est un genre qui sonne très musique de jeu vidéo de base. Donc le footwork, c'est un genre en gros musical qui naît dans une scène club un peu inspirée de la house, de la ghetto house et tout ça à Chicago. Et en fait, c'est une scène qui s'articule autour de danseurs beaucoup. Donc c'est une musique très rapide, ça va à 160 BPM. Et une musique avec des patterns rythmiques un peu déstructurés, en tout cas qu'on a un peu du mal à appréhender dans un premier temps. C'est vraiment une musique à la base qui a été créée pour challenger des danseurs et des danseuses qui voulaient plus de difficultés, donc qui voulaient des trucs plus rapides et plus, voilà, un peu plus fous quoi, en termes de danse. Quoi. Et du coup, ça fait très longtemps que j'écoute du footwork. Et je crois que c'est la, enfin, je trouve que c'est une musique très jeux vidéo compatible. Il y a beaucoup d'artistes de footwork qui ont samplé la musique de jeux vidéo. Et là, c'est la première fois que j'entends du footwork dans un jeu vidéo. Donc, du coup, je trouve que c'est un peu
Trop cool.
La boucle qui se referme, quoi.
Génial. Ça donne envie de jouer au jeu quand même. Faudrait
ouais,
que je
un
teste
peu.
Un
ouais. Oui, ça a l'air sympa. Et du coup, le dernier morceau, c'est un track de footwork, du coup, mais samplé d'un jeu vidéo pour le coup.
Tout à fait.
Pas donc c'est pas une musique qui vient directement d'un jeu vidéo, mais c'est un remix en quelque sorte, quoi. Donc c'est un morceau qui s'appelle Glow Up par un artiste qui s'appelle Cake Dog, et du coup c'est samplé de la musique de Fairy Fountain, donc la fontaine des fées donc là je crois que c'est la version de A Link to the Past, je pense, qui est samplé.
Ah, ok.
En termes de sonorité. Et donc ça vient de Zelda A Link to the Past, et la musique c'est Koji Kondo à la base, du coup,
évidemment.
C'est marrant, t'as respecté deux tracks de Sega, deux tracks Nintendo, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors que
on est en plein dans le battle de l'époque.
Complètement. En plus, de base, en termes de souvenirs de jeux vidéo, moi je suis beaucoup plus Nintendo que Sega.
Ouais.
Mais en fait, je pense que je me suis prise les musiques de Sega plus tard, quoi.
Ouais, puis t'avais
marrant,
un truc un peu vénère aussi. Enfin, il y avait plein de. Ouais.
Et j'en parlerai plus tard parce que j'ai chopé un bouquin de visuel de flyer de rave du Japon des années 90.
Je vois de quel bouquin tu parles, j'ai trop envie de l'acheter.
Manga Corpse. Ouais. Et dans l'intro, c'est ouf parce qu'en fait, faudra que je relise parce que je l'ai lu, j'ai fait waouh, génial! Et puis j'ai un peu oublié. En gros, Sega avait très bien capté le truc dès le début. Ils avaient un lien avec ça, en fait. Et il y a eu des soirées Sega, en fait.
Okay.
C'est Sega qui organisait des trucs, des clubs Sega, je vous redirai ça.
Excellent.
Mais ils étaient un peu en mode sponsor de DJ, de rave et tout.
Ouais.
Ils ont vraiment capté cette essence-là,
les
Sega.
Soirées où on a trop envie d'aller, quoi.
Ouais. Nintendo, c'était un peu plus tranquille.
Ouais.
Ouais,
c'était avec des groupes, quoi. Avec des...
Bah, merci pour ce descriptif très précis.
Bien.
On apprend des choses, vraiment. Ça me donne vraiment envie de diguer après sur le footwork et tout ça.
Carrément.
Et bien, je vais enchaîner à mon tour avec trois morceaux. Quelle est cette drôle de musique qui passe sur Canal B, 94 FM? C'était la musique de une des musiques du jeu Earthbound, sorti sur Super Nintendo en 94. À la composition, il y a Keiichi Suzuki et Hirokazu Tanaka. Alors Tanaka, il a fait vachement de choses. Suzuki, il n'a pas fait beaucoup de musique de jeu, il a eu une carrière au Japon en tant que musicien. Bon voilà, c'est un jeu génialissime qui est assez difficile à décrire, mais dans un univers assez particulier qui est, contrairement à tous les JRPG, les jeux de rôle japonais de console de l'époque, on n'est pas dans de la heroic fantasy, on est plutôt dans un monde contemporain, plutôt occidental, où les personnages ont des petites casquettes de baseball, et puis il y a des extraterrestres qui arrivent, et là tout part complètement en vrille. C'est un jeu exceptionnel, et que je vous recommande de faire, donc Earthbound, ou Mother 2. Dans sa version japonaise. En premier lieu, on a eu What You Need, du compositeur Hideki Naganuma, donc qu'on a eu dans le mix de Nat aussi. Donc c'était Sonic Rush sur DS sorti en 2005. Donc on reconnaît bien la patte funk très extravagant, électronique, qui part dans tous les sens. Et donc Sonic Rush que j'ai pas encore fait, j'aimerais bien le faire. Sonic Rush Adventure qui a l'air très cool aussi. Je sais pas si vous, non, vous les avez pas fait vous ceux-là sur DS.
Pas du tout.
Ouais.
Moi je vais me faire ailleurs, mais je n'ai fait aucun Sonic.
Ah ouais.
Okay. Non mais pareil, hein, j'ai jamais. Enfin moi je suis pas un Sega boy du tout. Ouais. Et Sonic.
Ouais, y a
c'est
pas
nul.
De...
Non, non c'est pas nul du tout. Non non.
On arrête tout.
J'ai jamais eu trop l'occasion.
Et jamais trop tard. Bah les vieux évidemment sont cultes. Il y a le Sonic Mania qui était cool, qui était sorti sur Switch et peut-être d'autres plateformes, je sais plus, qui une espèce de condensé des Sonic rétro mais avec un peu plus d'actualité, qui est vachement bien si ça vous branche.
Oui, en 2D aussi.
En 2D, ouais. Sonic Mania en 2D, une super musique aussi de T-Lops et bah le Frontier, ouais, en 3D. Sinon les Sonic 3D. Bah, moi c'est les Sonic 3D que j'ai jamais fait en fait.
Moi voilà, à chaque fois que
j'ai fait que du 2D.
À chaque fois que des potes à moi me parlent de leurs souvenirs de Sonic, c'est toujours pour me parler. Je crois de Sonic Adventure ou d'Adventure 2, je sais plus, et du Chao Garden, du truc. Alors il y avait un espèce de, je crois, de système dedans où en gros il y avait des familiers, genre où tu peux faire un espèce d'élevage dedans. Et je crois que j'ai énormément de gens de ma génération qui ont passé énormément de temps à pas faire le jeu officiel, mais juste à faire cette partie-là du jeu. Quoi,
c'était ceux sur Dreamcast, non ?
Je crois, ouais.
C'était la mode Pokémon, j'imagine.
Ouais, peut-être.
Et peut-être récupérer.
Je connais pas assez spécifiquement, mais en tout cas tout le monde me parle de ça, donc il faudra que j'essaie un jour.
Mais il y en a eu beaucoup. Hein.
Ouais.
Et donc voilà. Et ensuite, ouais, le morceau Everwinter de Keiichi Sugiyama et Mariko Namba, tiré du jeu Blinks The Time Sweeper sur Xbox, sorti en 2002, un jeu que je connais pas du tout, un platformer avec un chat, je crois.
Ouais, mais c'était... c'était ouf parce que The Time Sweeper, tu pouvais, quand tu meurs, tu pouvais rembobiner l'action en fait. Bref, c'était très nouveau à l'époque et ça faisait péter un câble quoi. Enfin,
ah cool, donc tu meurs jamais. Enfin, genre,
tu peux retourner en arrière, mais c'est comme après dans Prince of Persia, ouais, c'est un peu cette mécanique, mais c'est sorti bien plus tard.
Okay.
Y avait un peu ce truc de revoir l'action, hop, on regarde autrement. Et tu manipules le temps dans un platformer, c'était un peu stylé.
Ah, j'ai essayé de le refaire récemment, les sables du temps, ça a un peu vieilli, je trouve quand même.
Bah, c'était Yamakasi.
Ouais, un peu, ouais.
mais ok.
Puis justement, ce truc de retour dans le temps, c'est un peu agaçant parce qu'à chaque fois que tu meurs et que tu n'as plus de retour dans le temps, à chaque fois ton personnage, il y a la voix off qui fait non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé.
Ah oui, c'est vrai.
C'est assez énervant.
Et quand ils essayent de mettre un peu de narration là-dedans et que c'est un peu lourdingue.
Voilà, c'est ça.
Je sais pas si vous avez fait Katana Zero, un jeu indé qui est sorti il y a pas mal d'années.
J'en ai entendu parler, mais pas
fait. C'était assez cool. En fait, tu faisais toute l'action. Après, tu rembobinais à chaque fois. En fait, c'était comme si c'était une vidéo de sécurité qui avait filmé ton action.
Ah.
Et donc, il fallait, en gros, le jeu, quand tu réussissais le niveau, en fait, tu as toute ton action qui défilait devant tes yeux après. Bon, voilà, bref, ça me rappelait juste un peu ça.
Ouais.
Donc, c'était trois morceaux que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Et on va pouvoir passer à la sélection de Benjamin.
Ouais, c'est ça. Je vous ai préparé trois morceaux également. Et ben, tu peux y aller quand tu veux.
Ok. Thank you.
Vous écoutez Canal B 94 FM et donc l'émission musique.fm qui s'intéresse à la musique de jeux vidéo. Et donc on a écouté trois morceaux. Alors là, c'est carrément, je disais un peu plus tôt dans l'émission que j'étais pas du tout un Sega boy, et en effet parce que c'est majoritairement des jeux Sega que j'ai passé. Donc j'ai aucun lien affectif avec ces jeux, aucune nostalgie. Mais par contre, je trouve que c'est des jeux que j'ai choisis purement pour leur BO. Et il y a quand même une esthétique un peu cartoon dans tous ces jeux. Donc en premier, on a eu General Chaos. Le jeu General Chaos est sorti sur Mega Drive en 93. Une sorte de jeu de stratégie super chaotique, très cartoon. En fait, je crois que ça me fait penser un petit peu à un Worms, mais en temps réel. Donc sans le côté tour par tour des Worms. Et il y a un aspect coop. Donc on peut jouer à plusieurs. Et je crois que justement le jeu porte bien son nom, parce que General Chaos, il me semble que c'est le bordel de ouf. Mais ça a l'air très fun. Et donc il y a ce son, ces trompettes. magnifique et dégueulasse en même temps, bien FM de la fameuse puce de la Mega Drive de cette période. Et ensuite, on a eu un autre jeu Mega Drive, Dynamite Heady, sorti en 94, et la BO a été composée par Norio Hanzawa et Akihata. Donc ça, c'est un jeu de plateforme qui est pas mal de gens disent qu'il est un peu trop méconnu, mais qu'il est vraiment très cool. Tout se passe dans un univers de marionnettes, donc ça c'est ma DA, quoi, j'aime bien. Et tout est un peu dans des décors de théâtre, donc les plateformes, on voit que c'est un peu du carton, enfin bon, c'est cool. y a un délire un peu cool. Et c'est les deux personnes qui ont été à la composition, enfin il y en a plus, mais les deux plus connus, c'est les deux que j'ai cités là, et c'est des personnes qui viennent de Konami et qui ont fondé le studio Treasure. Et notamment, il y a Akihata, qui est une compositrice qui a une très grande carrière, parce qu'elle a composé pas mal de sons pour des animés et du jeu vidéo un petit peu aussi, mais qui a aussi une carrière de musicienne chanteuse à côté, et qui est assez culte. Moi, alors, je connais pas grand-chose en animé, donc elle a fait plein de trucs qui sont super cultes, mais j'ai pas les refs, et je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis qu'au Japon. Donc voilà. Okay. Et en dernier, on a eu un morceau, alors c'est un peu compliqué, donc c'est le jeu Pizza Tower, mais c'est un mod fait par des fans qui s'appelle Pizza Air, donc c'est pas du tout des musiques officielles du jeu, et là la musique a été composée par Balance Battalion, et du coup ce jeu, donc c'est un platformer sorti en 2023 sur PC et Switch, et c'est une sorte d'hommage à Wario, avec un côté très cartoon, assez débile, et franchement c'est super beau à regarder. Il y a un côté, un espèce de pixel art, mais très, très cartoonesque, et donc du coup ça me faisait un peu marrer de passer un jeu modé, enfin bref, donc j'ai dû un peu diguer pour tout ça, et il y a un peu cette vibe aussi Mega Drive, FM, Slap,
Arcade, Slap et tout, hein.
Voilà, donc c'était un petit peu ma petite sélection du jour, avec une petite esthétique.
Ah, merci, c'est très bien. Eh bien, l'émission file, le temps file surtout.
Oui.
On va aborder un peu la dernière partie, un peu les actus et tout. Bon, comme on disait ça la dernière fois déjà, mais il est encore un peu trop tôt pour vous parler des sorties qui arrivent, parce que donc on a parlé d'une future sortie de Nat bientôt sur le label. Avant ça, il y aura une autre sortie avant. Mais on prendra le temps d'en parler quand ça sera un peu plus
solide. Ça fait 4 émissions qu'on dit. Il y a des trucs qui sortent, mais on va pas vraiment en parler, mais un petit peu. Mais
c'est
bientôt.
Du teasing de teasing de teasing. On fera comme Nintendo Direct, on fera un Music Exit Direct.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'en petite actu, alors l'émission, elle passe donc le jeudi. Moi, je serai en DJ set dimanche après-midi au Paradis Perdu de 16h à 19h pour une sélection jeux vidéo à 100%. Donc si vous voulez passer boire un café, c'est cool l'après-midi pour écouter du son de jeux vidéo. Et t'as des dates un peu Nat qui arrivent ou pas en DJ ou...
Prochainement, ouais, j'en ai quelques-unes, mais il faudra que je vérifie. J'ai pas ça en tête là.
Est-ce que t'as des réseaux sur lesquels on peut retrouver tout ça?
J'ai des réseaux, tout à fait.
Collectif.
Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez taper DJ LMS sur Instagram et je mets à jour mes liens de date, etc. Et également, je fais partie d'un collectif de DJ qui s'appelle les Chaînes de l'Hexagone.
Ouais, exact.
Et donc, du coup, on organise des événements sur Rennes. Et là, du coup, le prochain événement qu'on organise, ce sera le 7 mars. on va faire l'annonce bientôt de la programmation et tout ça.
Cool.
Donc allez nous suivre sur les réseaux, ça va être très chouette.
Ouais, ne manquez pas les soirées des chaînes de l'Hexagone et les sets de DJ LMS qui cartonnent de ouf, c'est trop trop bien. Et toi Ben, je sais pas si t'as des actus...
J'ai Ableton.
Ah, il y a Ableton. C'est tout. c'est fantastique. Et bah écoutez, on va se quitter un peu vite, désolé, mais c'est comme ça, c'est les lois de la radio. On va se quitter donc sur un morceau du groupe Attention, le tapis prend feu, tiré de leur album Bogware, qui était un album concept avec un jeu vidéo qui existe toujours, qui est toujours jouable en ligne. Et donc le morceau s'appelle Saint-Toi, je crois qu'on dit ça comme ça, sorti sur AB Records et Entre Soi en 2023. Donc c'est un duo qui continue de sortir des choses aujourd'hui et qu'on passe le bonjour à Martin et Carla. Et c'est hyper cool, je vous conseille d'écouter, d'aller les voir, etc., etc. Et on vous dit à la prochaine sur Canal B pour l'émission de musique.fm.
Salut.
À bientôt.
Salut. Je dois chausser des pas démesurés pour retrouver ma bien-aimée, la touche perdue de mon santé. Je dois commettre le pire, mais je laisse la moitié.